La mort d'un enfant est toujours une terrible catastrophe. Lorsqu'il s'agit d'un meurtre, les mots manquent. C'est peut-être pour cette raison, le manque de mots, que la presse se précipite, que la rumeur se répand, que les foules se massent. On veut voir, on veut savoir, on exige que des têtes tombent. Ce phénomène est à l'origine du fiasco judiciaire français dans la tristement célèbre affaire Grégory, autour de laquelle nous réfléchissons aujourd'hui. Vous écoutez Après coup. C'est une bonne idée de revenir sur l'affaire du petit Grégory parce que là, la dernière fois, au dernier podcast, ce qu'on avait surtout abordé, c'était la réception, l'histoire autour de l'histoire, la construction médiatico-littéraire du récit autour du petit Grégory. Mais reste que c'est encore un meurtre non élucidé.
Ouais.
Puis qui a entraîné dans son sillage tout un paquet d'autres tragédies, dont le meurtre du principal suspect, qui était Bernard Laroche, dont le suicide récent 2017 du juge Lambert, dont aussi la mort de l'autre juge d'instruction, Simon, le juge Simon.
Oui, Maurice Simon.
C'est-à-dire, ça reste non élucidé, ça a entraîné des tragédies, ça a favorisé toute une imagerie, là, l'imagerie du corbeau en particulier, qu'on avait noté, puis toute une littérature vraiment, vraiment abondante. Mais l'histoire elle-même reste, c'est-à-dire, le mystère autour de ce qui s'est passé reste entier. Puis peut-être que... on peut essayer de rentrer par cette porte-là pour poursuivre. Là, on a comme 40 ans d'enquête, presque.
Ouais. Mais on a beaucoup de matériel, puis on n'a pas beaucoup de matériel. Parce que t'as raison, tu sais, l'autre fois, on parlait plus de comment tout ça avait été reçu, mais aussi comment chaque personne avait, de son point de vue, avait élaboré ce qu'il avait vécu. Fait que, tu sais, il y a plein de journalistes qui ont eu un regard critique sur ce qui s'est passé, puis plein de gens ont dit « Ah, ben, puis des documentaires, puis tout ça. » Mais en même temps, bon, de un, parfois, les gens mêlent la fiction à ce qui s'est passé parce que c'est des ouvrages délibérément en partie fictifs. Des fois, c'est pas le cas, mais de toute façon, parce que c'est un point de vue subjectif d'une personne et que les années ont passé, ben, il y a tous les fantasmes de chacun qui s'ajoutent. Fait que je pense que l'élan qu'on aurait voulu avoir aujourd'hui, qu'on va avoir de la difficulté à avoir dans un sens, c'est de dire « Ah ben, regardons les écrits ou regardons les audios. »
La vraie preuve.
Ouais, et oui. Non ce qu'on a dit au fil des années ou d'autres questions. Parce que des fois, il y a des choses qui sont, entre parenthèses, réglées, puis il y a des gens qui relancent en disant « Ouais, mais c'est quand même curieux, tel truc, comment ça?
» Oui, mais... il y a des passionnés de cette enquête-là,
ouais.
Sur YouTube, sur les blogs et tout ça. Là, il y a des gens qui consacrent énormément d'heures à essayer de décortiquer...
Je pense que le documentaire Netflix a reparti l'élan aussi.
Oui, hein?
Plus que l'autre documentaire français, qui je pense avait eu moins d'impact, mais Netflix, c'est gros. Hein? Pour l'anecdote, par contre, parce que... C'est le fun des anecdotes. T'as-tu entendu parler que le propriétaire actuel de l'ancienne maison de Jean-Marie Villemain et de Christine était vraiment tanné de voir les drones de Netflix passer? Fait qu'il en a tiré un à la carabine.
T'es sérieux?
Ouais, c'est tanné. C'est vrai? Il a sorti sa carabine. Boum, boum! Il a abattu un drone de Netflix. Parce que eux autres, ils passent autour pour les lieux. Puis, bon, mm-hmm. Mais tu sais, on peut. Puis il y a plein de monde aussi. Avec le documentaire Netflix qui passe dans la région, puis qui vont voir, puis qui se promènent.
Mais d'ailleurs, c'est juste un petit commentaire incident. Comment ça se fait? Donc, on peut interdire aux gens de passer sur notre terrain, là, puis de rentrer dans notre maison comme bon leur chante, mais que l'espace aérien par-dessus chez nous est complètement libre à tout le monde, à qui veut. Hein? Je ne sais où est-ce qu'elle s'arrête, la propriété, en hauteur, puis en profondeur. C'est un nouveau problème.
Oui, c'est que le drone amène.
Oui.
Mais bon, fait que la déception, on peut le dire comme ça, c'est le fait qu'on n'a pas tant de matériel, à un moment donné, qui dit, OK, outre les élucubrations de chacun sur ce qui a été dit, par exemple, il y a toute l'histoire de Muriel Boll, tu sais, Elle dit qu'elle a pris l'autobus pour se rendre chez elle, fait que donc elle n'implique pas le principal protagoniste de l'affaire, Bernard Laroche, mais à un moment donné, elle change d'idée.
Juste pour resituer Muriel Boll, c'est la jeune adolescente qui a été entendue par la gendarmerie, qui a d'abord dit « Ah ben non, j'étais à l'école, je suis au courant de rien. » Bon, c'est une jeune adolescente qui vivait avec Bernard Laroche, qui était le mari de sa sœur aînée. Donc, son premier témoignage disait « Non, non, je suis au courant de rien. » Puis, on est arrivé à la maison où chez tante Louisette. Quand je suis arrivée, Bernard était là, puis tout est beau. Et ce que Bernard Laroche lui disait, c'est « Quand je suis arrivée, Muriel était là, puis tout est beau.
Ouais. »
Et puis, face à cette contradiction-là, Muriel Boll a été réentendue pour éclaircir ce point-là, puis finalement, son histoire a complètement changé. Ce qu'elle a dit, c'est « J'étais dans la voiture, Bernard est venu me chercher à l'école. Il m'a amenée à tel endroit que je connaissais pas. Il est allé chercher un petit garçon qui est rentré dans l'auto, puis il l'a amené à un autre endroit que je connais pas. » Il a déposé le petit garçon, il est revenu, on est parti, puis on est rentré à la maison. Après ce témoignage, elle rentre chez elle, passe la fin de semaine avec obligation de ne pas parler de l'enquête à sa famille. Bon, chez elle, c'est chez Bernard Laroche et sa femme et leur fils. Hein?
Donc, sa soeur,
c'est ça, chez dans la famille du principal, du suspect du moment.
Ouais.
Et donc, le lundi, elle rencontre le juge d'instruction, répète sensiblement la même histoire et rentre chez elle. Et le mardi, a changé de version. Non, c'est jamais arrivé, puis j'ai pris le car, puis je suis rentrée de l'école, puis Bernard est innocent, puis... Donc, c'est ça.
Ouais.
Donc, autour de ces trois différents témoignages-là, s'est construit l'histoire, parce qu'en fait, c'est sur son témoignage qu'a reposé l'arrestation de Bernard Laroche.
Ouais.
Et puis, qui a été libérée par la suite, par manque de preuves, parce qu'elle a changé de version.
Mm.
Mais autour de cette histoire-là, il y a comme un point d'achoppement là, de son témoignage. C'est central au dérapage
ça reste
de l'enquête.
Un nœud dans l'affaire. Quand le juge Simon a repli l'enquête en 87, 88, tout ça, il y a un moment donné, il raconte qu'il a interviewé Muriel Boll pendant des heures et des heures et des heures. Puis lui, ce qu'il dit, encore là, c'est ça, la déception, c'est qu'on n'a pas la transcription de l'entrevue. Fait qu'on n'a pas comment elle parle. Lui, on a juste sa parole qui dit « J'ai senti qu'à plusieurs reprises, elle était sur le point de céder. » Et donc, céder dans le sens de dire « Oui, j'étais avec Bernard Laroche, puis oui, il m'a amené. » Mais à chaque fois, elle se reprenait, puis j'ai pas réussi à la faire « craquer », entre guillemets. Je pense pas « craquer », c'est le terme qu'ils utilisent, là. Mais bon, c'est ça. On a la version, mais on a la version du juge, mais on n'a pas la transcription. On n'a pas certaines transcriptions de l'affaire. Puis ça reste, en 2017, elle a été inculpée à nouveau, puis réinterrogée, puis on lui a fait passer des tests. Puis, tu sais, son témoignage demeure vraiment central. Mais on n'a pas tant accès. Ben, puis peut-être c'est disponible, puis on ne l'a pas trouvé, mais c'est pas facile à trouver, en tout cas. On
ne
peut pas le chercher longtemps.
Ça amène un commentaire sur, tu sais, qu'on a déjà fait, comment les Américains, c'est la full transparence dans tout, en fait. C'est oui. que tu veux, t'es chez toi, tu veux savoir qu'est-ce qui s'est dit au procès, ben pouf, bling, 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 t'as comme la transcription complète ouais. du procès, du...
Tout.
De l'enquête, t'as comme de...
La caméra du policier.
La caméra du policier, ce qui te permet de te faire une tête à ouais. partir de données brutes.
C'est ça.
Non interprétées par tout un chacun. Là où ça, puis ce qui rend les choses d'autant plus intéressantes quand on s'intéresse au crime et,
ben
et
oui.
comment après l'histoire initiale se transforme et qu'est-ce qu'on en fait tout un chacun, comment ouais,
qu'on romance ça, qu'est-ce qu'on élabore,
qu'est-ce qu'on projette aussi, ben comment on transforme les choses pour toutes sortes de raisons.
Jusqu'à un point des fois, avoir donc beaucoup de difficultés à discerner ce qui est de la vérité ou de la mi-vérité du mensonge, parce que, tu sais, il y a des pistes qui sont des fausses pistes, qui sont des rabbit holes, tout ça, mais en même temps, sur cette fausse piste-là, ben, il y a 8 ouvrages, 3 documentaires,
oui.
9 YouTube, il y a des heures et des heures, finalement,
oui.
mais pourquoi on parle de ça? Parce que quand tu finis finalement à dénicher la transcription originale, tu vois que c'était une chire d'un avocat qui a voulu...
Oui, c'est ça. C'est ça, une
spin. Bouiller les pistes.
Oui, une spin pour faire disculper son client, par exemple.
Il y a quelqu'un qui peut toujours arriver en disant « Ouais, mais quand même, s'il y a tant de documentaires, il n'y a pas de fumée sans
oui,
feu. »
C'est ça. Oui, c'est ça.
Il doit voir quelque chose là. On a accusé la mère pendant 9 ans.
T'sais. Ben, c'est ça. Il doit,
c'est quand même louche.
C'est pas pour rien. Hein? C'est quoi? C'est comme quoi tous ces gens-là sont dans le champ.
C'est ça. Oui, oui, c'est ça.
C'est ça l'argument par c'est la masse, là, par la quantité, là,
l'argument par le nombre. Ouais. C'est ça.
Ouais. L'interprétation de ce qu'a dit Muriel Boll par sergent détective Cessmatt, qui est celui qui a passé l'entrevue.
Ouais.
Les points importants que lui a décelés. Mais tu peux pas savoir, toi, tu sais, de quoi il en retourne, à moins de faire entièrement confiance à celui qui raconte l'histoire.
Ouais.
Et là, tu as la version alternative qui est, ben, ce témoignage-là de Muriel Boll a été obtenu sous la contrainte. Donc, elle dit, ils m'ont fait très peur et l'enquêteur m'a effrayée, il m'a menacée et c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire-là. Puis là, toi, t'es comme, tu te demandes qui est le plus crédible des deux. C'est tout ce que t'as.
Ouais.
Tu peux pas lire comment ça s'est passé. C'est frustrant.
Oui, puis comme on se racontait tantôt, il y a des façons, quand t'écoutes un témoignage, d'évaluer la force du témoignage, t'sais?
Oui.
Il y a des façons, quand quelqu'un témoigne d'avoir vécu quelque chose... La façon dont les détails sont élaborés, mm-hmm. ce qui se rappelle,
mm-hmm.
les raccourcis qu'il prend,
mm-hmm.
où ça te permet de dire si certains critères sont rencontrés, ben, selon toute vraisemblance, tu peux jamais savoir, mais ça donne beaucoup plus de poids au témoignage qu'un autre où, par exemple, il y a des formules toutes faites, puis quand tu demandes des précisions, il n'y en a pas.
Oui.
Puis il y a plein de choses très documentées. Fait qu'avoir accès à ça, donc à la transcription des fois des entrevues, ben, permet de donner une autre coloration à l'affaire. Puis entre autres, c'est quelqu'un qui se rappelle un événement traumatique ou un événement, ou dans le cas de Muriel Boll, ce qui s'est passé, et qui spontanément donne beaucoup de... ou certains détails périphériques, ça ajoute de la crédibilité au témoignage.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Fait que donc quelqu'un qui dirait, puis c'est son cas, a dit... quand elle parle au gendarme la deuxième fois, a dit... « Je suis sorti de l'école, j'ai entendu mon beau-frère m'appeler, dire « Boboul, Boboul, c'est mon surnom. » J'ai entré dans le corps. » Puis elle raconte comment elle a pris certains chemins. Il y avait des chemins en construction. Quand ils sont allés vérifier, c'était effectivement en construction. Tu sais, il y a des détails comme ça qui donneraient un certain poids à ce qu'elle a dit, versus quand elle s'est rétractée, où là, ça apparaît beaucoup plus... Ah, puis elle s'est rétractée devant les journalistes en premier, je crois, ce qui est quand même pas rien.
Oui, ils ont appelé des journalistes...
Entourés de sa famille.
Ils avaient juste appelé des journalistes en faisant « Hey, venez par ici », parce qu'ils étaient partout dans le village. Là.
Mais tu sais, donc, elle s'est rétractée devant les journalistes, sa famille autour, en lui disant presque avec des regards « Va pas là, va là
mm-hmm. ».
Mais bon, des années plus tard, puis, c'est quand même... Oui, vas-y.
Après que des voisins Il y a ça aussi, des voisins, un cousin récemment qui ont témoigné que le soir... En fait, parce que pourquoi on a su le témoignage, ce dont Muriel Boll avait témoigné, c'est parce que le juge d'instruction est allé le dire aux nouvelles. Oui. Il y a comme ça, c'était la grosse gaffe de toute l'histoire.
Oui, exact.
Juge d'instruction de 33 ans, le Lambert, qui arrive devant les journalistes, puis qui essaye de préserver le secret de l'instruction, mais qui n'est pas capable de se retenir,
oui.
de répondre quand les journalistes insistent.
Ouais, donc, ils n'ont pas tant à insister. Hein.
C'est ça. Puis ils donnent le nom de la petite fille qui a 15 ans.
Qui la renvoie chez eux.
Puis qui la renvoie chez elle, c'est ça. Et donc, elle se retrouve chez elle et les voisins et cousins, en tout cas, il y a des gens qui témoignent avoir entendu des hurlements, puis comme qu'elle a passé un sale quart d'heure la veille de sa rétractation. Puis donc, quand elle se rétracte, excuse-moi, je t'interrompais, là, devant les journalistes. Fait que là, toute la famille est là, devant chez eux. Hey! Hey! Pchit, par ici!
Par ici, le scoop!
Les journalistes arrivent, et là, donc, elle se rétracte avec des mots très stéréotypés.
C'est ça.
Je pense que c'est là que tu t'en allais.
Ben, en fait, je m'en allais là, mais je m'en allais aussi à la curiosité de voir quand le juge Simon l'a interviewé pendant, je pense, 10 heures. Là. Je pense que c'est 10 heures qu'il dit. Comment ça s'est déroulé? Parce que lui, s'il y a quelque chose qu'on peut lui supposer, c'est une certaine finesse. Et de comment donc il a pu essayer d'élaborer, puis... De revenir sur ce qu'elle avait dit, puis de prendre ça tranquillement. Hein.
Mm-hmm.
Mais bon, après ça, en 2017, donc récemment, quand même, quand elle se fait inculper, pas inculper, mais en garde à vue, puis toutes sortes de trucs, mm-hmm. là, ouais. Puis elle refait des tests, puis il la réinterroge, puis elle écrit un livre, puis elle en parle de son livre. Je voyais qu'à un moment, elle a dit que on n'a jamais pris en compte ce qu'elle disait et sa douleur. Mais c'est possible, tu sais. En fait, je doute pas qu'il y ait de la douleur de sa part. Puis je doute pas qu'il y ait plein de monde qui soit passé à côté de ce qu'elle essayait de dire en court-circuitant plein d'affaires, là.
Mais c'est aussi... je prends la balle au bon parce que c'est comme un truc qui m'interpelle toujours comme très fort, là. C'est que... c'est une petite fille de 15 ans, de peu de mots...
Ouais.
Qui dans toutes les photos, là, il y a... Il y a des sites là où toutes les photos qu'on a d'elle sont juxtaposées. Ben, c'est pas une enfant souriante sur ces photos-là. Tout son langage non-verbal, en tout cas tel que pris sur les photos, comme signale un mal-être, tu sais.
Ouais.
Puis une fille qui s'exprime pas de ce qu'on en sait quand on l'a vu s'exprimer, qui s'exprime pas facilement, qui trouve pas facilement ses mots, dont on a dit, tu sais, elle ne parle pas. Même son chum, là, le père de deux de ses enfants, c'est quelqu'un qui parle pas. La tentation de la condescendance de la part de gens qui sont des professionnels, que peu importe qu'ils soient gendarmes ou juges d'instruction ou journalistes, la tentation de présumer qu'il n'y a rien à voir là, que la seule chose qu'on veut savoir, c'est quelle version est vraie, contribue à faire en sorte que le contenu de ce qu'elle dit est escamoté.
Oui, oui. Ben oui, puis de cette plainte-là, on peut elle est certainement recevable. Puis elle a été empêchée de sortir par la suite. Elle était limitée. Sa famille l'empêchait de voir du monde. Elle a arrêté d'aller à l'école.
Puis sa famille ne lui parlait pas, elle l'a dit.
C'est ça que j'allais dire. Sa
elle était
soeur,
là comme un
parlait
objet.
Plus. Oui, puis ça, c'est terrible. À un moment donné, la journaliste lui demande qu'est-ce que tu dis à ta soeur, tu sais, qui était la femme de Bernard Laroche, qui a été tué. Là. Puis elle dit « Ah, elle me parle plus. » Puis elle dit « Est-ce que t'aimerais ça qu'elle te parle? » Puis elle dit « Oui, j'aimerais ça. » Tu sais, elle est comme là sans être là pendant des mois et des mois.
Oui.
Le symptôme, la raison pour laquelle le beau-frère a été tué.
C'est son témoignage.
C'est terrible.
Oui, c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Puis après, quand tu dis qu'elle dit « Mais personne n'a pris le temps de s'arrêter à ma douleur à moi, ben je c'est parfaitement imaginable. Là.
Ben oui, tout à fait.
D'autant plus que, tu sais, dans une des entrevues, les parents Villemain, une de leurs dernières entrevues, les parents Villemain vont dire, ben en fait, on doit notre vie au juge Simon.
Ouais.
Parce que c'est lui le premier et le seul à avoir entendu notre douleur.
Oui, on a parlé la dernière fois, tout à fait.
Mmh. C'est qu'elle, tu peux imaginer qu'elle a entendu ça aussi.
Oui, oui.
Je sais pas si t'es impliqué dans une histoire, t'es curieux de savoir qu'est-ce qu'il s'en dit, là.
Oui, oui. Non, le juge Simon a vraiment... T'sais, c'est lui qui a ramené, de ce qu'on comprend, l'humanité dans l'affaire, puis un respect des gens, puis une sensibilité à écouter ce qui s'est passé. Puis... Mais bon, il en a payé le prix, là.
Puis tu disais, hein, je savais pas qu'elle avait écrit un livre. C'est drôle, ça m'a échappé.
Oui, oui, elle a écrit un livre en 2017-18, je sais pas trop, là.
Puis que là, elle dit « Personne n'a entendu ma douleur ».
Ouais.
Est-ce que c'est jusqu'à telle chose ou c'est point, personne n'a jamais entendu ma douleur? Mais encore là,
c'est que c'est des bouts, c'est toujours des bouts, des extraits hors contexte. Ouais. Tu sais, c'est une entrevue, ouais. On la voit, t'as pas les silences, t'as pas les malaises, t'as pas ce qui précède, ouais. T'as comme un extrait de 4 secondes où elle dit « Ah, personne n'a entendu ma douleur », mais exactement à quoi ça fait référence? C'est dur à trouver. À un moment donné, là, je cherche le titre de son livre. Là. Ça s'appelle, c'est quand même pas rien, là, « Briser le silence
».
Et ça a été publié en... OK, c'est très récent. Ça a été publié en janvier 2021.
Wow. Es-tu sérieux?
Ouais, je pensais que c'était en 2017.
Ah oui, hein?
Ah oui, quand même.
Ça a été écrit avec qui? Elle l'a écrit avec quelqu'un?
Je sais pas. Faudrait le lire.
Ouais. Ouais.
Mais il y a plein d'affaires comme ça, tu sais, des... Tu sais, je relisais hier, c'est pas en lien avec ce qu'on parle, mais en même temps, ça l'est. Je pense qu'on en a parlé la dernière fois, mais tu sais, le juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, il s'enlève la vie en 2017. Puis là, quand même, c'est pas une extrapolation psychanalytique rocambolesque. Là, la façon dont il s'enlève la vie est la même que son personnage qui lui ressemble dans son livre qu'il a écrit avant de mourir et qui a été publié quelques mois après sa mort. Donc les deux s'enlèvent la vie de la même façon, qui est pas une façon quand même si courante. Là, ils prennent de l'alcool, des médicaments, je crois, puis ils se mettent un sac sur la tête puis asphyxient. T'sais. Son personnage meurt comme ça, dans un contexte similaire. Fait qu'on voit qu'il était hanté par toute cette histoire-là. Là, pis... Mais je dis ça parce que, justement, là, ça je le sais, ce petit bout-là, là, que son personnage s'enlève la vie de la même façon, mais tu vois, j'ai pas lu son livre, mais peut-être que si on le lisait, on dirait « Attends! » Il y a d'autres choses aussi qui sont très notables que personne n'a noté dans ce livre-là, dans la façon dont les...
Oui, oui, oui.
Il y a tellement de choses à lire, à un moment donné.
Oui, oui, oui. Puis c'est drôle parce que, en fait, celui qui n'a pas écrit de livre, c'est le juge Simon, mais le juge Simon a écrit des carnets. C'est les carnets... Oui. C'est par les carnets qu'on est informé de sa pensée. L'information brute n'est pas facilement accessible si elle l'est, point. Peut-être qu'il faudrait faire des grosses démarches, puis c'est comme écrire à le palais de justice.
Oui, c'est ça. Mais en fait, il y a une démarcation. Il y a des choses qui sont disponibles sur le web en se forçant, puis il y a des choses qui ne sont disponibles que si tu en fais la demande officielle à des canaux officiels, pas officiels, mais officiels. Puis là, peut-être qu'il y a des trucs qui sont disponibles, mais là, c'est une autre...
C'est ça, il faudrait, si t'es vraiment, vraiment, vraiment très, très investi, puis que tu brûles du désir de savoir, entre autres, moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait d'avoir toutes les lettres du corbeau et tous les enregistrements du corbeau.
Ouais, ouais.
Parce que ça aussi, c'est quelque chose que tu mentionnais la dernière fois. On entend parler d'un corbeau, on fait passer la dictée à tout le monde dans le village, on s'intéresse...
Ben oui.
À l'écriture, c'est-à-dire la graphie.
Et non, au contenu.
Mais on parle pas de contenu.
Oui, ça, c'est incroyable. J'en ai à rajouter là-dessus parce que, tu sais...
Oui, c'est quelque chose.
Oui, bien, notamment, Il y avait beaucoup de secrets de famille, là, comme dans toutes les familles, mais dans celle des Villemain et des Jacob, donc les parents de Jean-Marie, du côté de son père, il y avait le secret que le corbeau lui rappelle souvent, que son père s'était suicidé. Bon, là, moi, je pensais que son père s'était suicidé parce que quand il était revenu de la guerre, sa femme l'avait trompé.
Mm-hmm.
Là, il y a aussi l'idée quand même que... Donc, juste pour resituer l'affaire, là, t'as Jean-Marie et Christine Villemain. Jean-Marie a des parents, Albert et Monique. Albert, son père et sa mère ont eu un enfant qui, à l'âge de 4 ans, a été par inadvertance tué par la mère. C'est quand même pas rien.
Mm-hmm.
Fait qu'elle a donc corrigé, ce que je comprends, évidemment, c'est un peu sketchy comme information, mais elle aurait fait une punition.
On dit par inadvertance, peut-être aussi par pudeur.
Oui, c'est ça. Mais elle l'aurait corrigé, elle l'aurait frappé, puis ça, il aurait tombé. Puis bref, il serait mort, l'enfant de 4 ans. Et ça a l'air que ça serait peut-être relié à ça, le suicide du père d'Albert, la mort de son enfant. Mais bref, il y a cette histoire-là, il y a l'histoire du suicide du grand-père, du père, que le corbeau rappelle toujours à Albert en disant « Tu vas finir comme ton père, tu vas te suicider, tout ça.
Mm-hmm. » Il envoie des corbillards.
Oui, c'est ça, il envoie des corbillards, c'est terrible.
Il envoie l'ambulance, il s'est pendu.
Il dit à tout le monde qu'il est mort, les gens débarquent en voulant payer leur respect, ils croisent Albert en chemin.
Oh my God, c'est terrible.
Tandis que du côté de la mère, là où je veux en venir, c'est que il y a aussi quand même des secrets qui sont pas mineurs, dont une histoire d'inceste où le père de la mère de Monique a un enfant avec une de ses filles, avec une des sœurs de Monique.
Le père de la mère de Monique, ça veut dire son
En fait, le père de Monique, excuse-moi.
Le père de Monique. Okay. Oui.
A une relation incestueuse avec sa fille.
Monique?
Une sœur de Monique. Et il y a un enfant avec elle.
Qui est qui?
Je sais pas.
OK.
Mais...
On ne sait pas.
Probablement que c'est su, mais moi, je ne le sais pas. Mais je sais que ça, ça existe quand même, une histoire d'inceste. Dans la famille de Monique, sa sœur qui a un enfant avec le père. Mais j'en parle parce que, quand même, c'est une histoire qui n'est pas banale.
Oui, tout à fait.
Et le corbeau en fait jamais allusion.
Fait
que c'est dans ce sens-là, le contenu du corbeau
n'est
pas juste de l'écriture. T'sais, le corbeau ne reproche pas tous les secrets. Il y a des secrets précis qui vraisemblablement l'achalent plus. Le fait qu'Albert ne soit pas mort, puis son souhait que... Il veut rendre fou Albert, le corbeau.
Avant de commencer à s'en prendre à Jean-Marie.
Ouais.
C'est ça.
Fait que tout ça pour dire que...
C'est parce que c'est ça. En 1981, le téléphone commence à se répandre dans la vallée de la Bologne. Et avec le téléphone, les trolls se mettent sur le piton. Fait que là, les gens sont comme des crank calls, des appels non sollicités se mettent à revoler un petit peu partout. Et dans la foulée, il y en a un en particulier qui est comme insistant et harcelant, qui est le corbeau. Au téléphone, insistant et harcelant avec Monique et Albert. Et c'est un corbeau ou plusieurs corbeaux, parce que des fois, c'est une voix de femme.
Ouais.
Des fois, c'est une voix rauque d'homme. Mais en tout cas, on compte là, 700 appels et plus juste chez Albert et Monique.
Ouais.
Et là, éventuellement, Jean-Marie, qui est leur fils, devient chef dans son usine de filage. Devient chef, et là, ça switch. Lui commence à recevoir... En fait, c'est comme ça que je l'ai compris. Je fais peut-être mal le récit, mais ça m'a frappé, moi, que ça ait commencé par du harcèlement solide envers les parents pour éventuellement se déplacer vers Jean-Marie.
Ouais.
Ça me semblait pas anodin. Et en fait, c'est que Jean-Marie est devenu chef.
Et Jean-Marie qui est moins... perméable aux accusations, aux trolls du corbeau. Tu sais, Albert, ça
oui,
le rend
fou.
Oui,
il jase avec. Oui, c'est ça. Et... Jean-Marie, il jase avec.
Oui, Jean-Marie, il défie un peu. Oui. Je vais briser ton auto, brise-là mon auto, je vais m'acheter une autre bagnole, on s'en fout. Tu sais,
oui, oui.
Il nargue
oui,
un
oui.
peu.
Oui, oui, Albert, on a les enregistrements de ça, on parle ça. En termes de données brutes. Là, on... ouais.
Puis Albert, ça, il semble, selon toute vraisemblance, ça le rend fou. Puis, ce qui fait en sorte que l'autre double down avec plein de... Tu sais, il va dire à Monique, ton vieux sans le vieux. Plein de petites affaires pour le... nargué, que l'autre ne s'en peut plus d'essayer de comprendre c'est qui. Puis... Mais bref, moi, je voulais en venir, c'est que c'est surprenant, sans entrer dans tous les détails, comment il n'y a pas de gens, il me semble, qui sont dit à ce moment-là, ben, et regardons le contenu de quoi le corbeau veut rendre Albert fou, il lui dit qu'il va finir comme son père, et il accuse Monique d'être une pute, il accuse Monique d'avoir eu d'autres enfants qui serait illégitime.
Avec d'autres hommes,
avec d'autres hommes.
Elle en a eu un.
Mais il l'accuse d'en avoir eu d'autres.
Oui.
Mais il parle pas de certaines choses. Alors, tu sais, à un moment donné, tu dis...
Oui.
Qui pourrait en avoir gros sa patate sur ces enjeux-là?
Oui.
Ça réduit quand même les perspectives. Mais il y a comme eu une espèce de glissement quand tu regardes l'histoire où ils ont été très vite à dire, ben, faisons écrire la dictée ambidexte, en gauche, à droite, de toutes les façons, avec les pieds, à 300 personnes, puis amenons 4 experts. Puis là, ça a amené comme une espèce de foutoir.
Oui.
Pareil, où chaque expert soulevait la possibilité que ce soit quelqu'un d'autre.
Oui. Puis là, tu dis, ben oui, le T, c'est, en fait, c'est ça, là, des experts en graphologie. Ah, vous voyez, le T. Puis c'est vrai, là, on a des signatures, des façons de faire nos T ou nos P. Même en déguisant l'écriture, mais il y a des gens qui sont très habiles, qui sont capables de déjouer ça aussi, là, tu sais, ou t'écris de l'autre. Mais en tout cas, peu importe,
à partir du moment où
que c'est suffisant pour identifier quelqu'un. Mais là, c'est parce que t'as identifié ou t'as l'écriture du corbeau, parce que bon, à un moment donné, le téléphone a switché aux lettres, là, l'écriture du corbeau ressemble à celle de Bernard Laroche. Et oh, comme par hasard, sa belle-sœur Muriel dit qu'elle était avec lui en voiture, qu'ils sont allés à une maison, puis qu'un petit garçon est rentré dans l'auto.
Ouais.
Donc, par conséquent, on a notre suspect.
Oui, c'est ça.
Fait que là, si Muriel dit, ben non, finalement, c'est pas ça, ben là, qu'est-ce que tu fais avec ta graphologie?
Ben, de la même façon, à un moment donné, il y a une experte en graphologie qui a dit, ben non, c'est l'écriture de la mère.
Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça.
Quand on pourrait se dire, mais pourquoi Christine voudrait rendre Albert fou, on peut au moins lui poser la question, puis voir, puis ça, tu sais, en venir à la conclusion que ça n'aurait pas de sens.
Apparemment que dans toutes les enquêtes qui piétinent, là, les enquêteurs reçoivent des coups de téléphone, puis des offres de médiums, puis de voyants, puis que parfois, ils cèdent à la tentation d'aller y voir parce qu'ils sont à court de pistes.
Oui.
Ben, c'est ça.
Mais là, dans ce
cas... Christine, donc je vois que Christine, a fait ses courbes plus comme ça, puis que donc, gardons le corbeau qu'une fois de temps en temps, il fait ses courbes comme ça. OK.
Là, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a plus qu'un corbeau, qu'il y a une lettre qui est quelqu'un qui fait juste imiter le corbeau. Fait que là, tu dis, oh non.
Fait que ça devait...
non. On a mis dans le collimateur des experts celui qui imitait le corbeau.
Oui.
Puis on a identifié 4 personnes. Ah, puis, c'est
ça.
Tout le monde qui en finit. Puis là, après ça, ben, tu te rends compte qu'il y a certaines façons dans la procédure de soumettre des écrits aux experts qu'il faut qu'ils soient faits en bonne et due forme. Sinon, leurs conclusions ne sont pas recevables.
Oui.
Fait que là, il y a plein de rapports d'experts qui sont éliminés d'un coup.
Oui.
Puis là, tu finis par te ramasser dans une histoire qui a...
Puis tu dis, mais en fait, il y a un truc, c'est où est-ce qu'elle est passée, la bonne vieille analyse de texte, tu sais, de l'ancien temps, tu sais, l'analyse de contenu de l'ancien temps, d'avant l'époque où on a commencé à considérer que faire de l'analyse, c'était associer librement à partir d'un texte, puisque finalement, tout peut... évoquer tout et tout est dans tout.
Ouais.
Mais tu sais, la bonne vieille analyse de texte, c'est-à-dire, bon, ben, il écrit comme ça, puis premièrement, puis deuxièmement, puis troisièmement, puis on voit un ensemble, puis on fait un, tu sais, parce que c'est de ça qu'on aurait eu besoin.
Ouais.
Je sais quoi, ça? C'est quoi le bug? D'abord, il y en a un qui dit, avec insistance et avec raison, mais en fait, quand on regarde tout ce qu'on sait du corbeau en question, nous amène à penser que c'est un psychopathe, là, c'est un malade, là, tu sais? Puis je dis, il a raison, parce que c'est... Je veux dire, mais quelle méchanceté, puis quelle, comment, quelle passion dévorante t'habite,
ouais,
pour appeler en continu quelqu'un qui a perdu son père par suicide pour lui dire « tu vas finir comme ton père » et ta femme, tu sais, ton aîné, c'est pas le seul fils que ta femme a eu avec un autre,
ouais,
et je vais t'envoyer un corbillard et tutoie. C'est, mais quelle rage, mais quelle méchanceté, hein?
Mm.
Il me semble que de lire, tu sais, comme la suite des événements de ce corbeau-là, au-delà de « oh, il se faisait harceler par quelqu'un,
mm-hmm,
on voudrait essayer de savoir c'est qui », fait que, tu sais, comment ça s'est construit puis comment ça a évolué, il me semble que c'est hyper important et intéressant.
Ouais, puis comment ça a évolué quand même, cet aspect-là, de dire « j'envoie un corbillard à l'adresse quand je sais qu'il est là », tout ça, à quand même... C'est kidnapper un enfant puis le tuer, là, c'est...
À l'intérieur, en dedans de vraiment pas longtemps, tu le kidnappes, il est mort, tu l'envoies dans l'eau.
Oui, puis tu sais, il y a aussi, là, j'ai plus les dates, mais... parce qu'il y a eu des centaines d'appels aux parents, mais ça a arrêté à un moment donné. Ça a arrêté pendant plus qu'un an. Hein.
Ben oui, mais ce qui est arrivé, c'est que la gendarmerie, les parents ont porté plainte... Puis la gendarmerie, à la gendarmerie, on leur a dit « ben, on va vous mettre sous surveillance, on va mettre votre téléphone sous surveillance », ce qu'ils n'ont pas fait. Ils l'ont dit, mais ils ne l'ont pas fait. Mais on peut supposer que ça s'est su.
Oui, oui.
Hein? Ben, qu'il y a sûr, quelqu'un qui ne voulait pas être retracé, fait que ça s'est arrêté, puis c'est là que les lettres ont commencé.
Ouais.
Puis à un moment donné, rien du tout. C'est que pendant l'année avant...
C'est ça, il y a eu un truc en dormance pendant plusieurs mois.
Oui. Puis après, l'enfant disparaît.
Ouais.
Mais ce qu'il y a eu aussi, c'est des tentatives d'entrée par effraction.
Ouais.
Je pense que ses pneus ont été crevés.
Ouais. Fait que, est-ce que, admettons qu'on essaye de régler des choses avec les infos qu'on a, là, toi, tu penses-tu qu'il y a... que c'est une histoire, que c'est Bernard Laroche, puis c'est une seule personne, ou c'est une histoire que celui qui fait... l'enlèvement refile l'enfant à d'autres qui, eux... Tu sais, chacun a son rôle. Il y a une personne qui endort l'enfant à l'insuline, il y a une personne qui le met dans la rivière, il y a une personne qui le kidnappe.
C'est vrai qu'ils sont trois à être ouais, contents d'enlever puis de tuer un enfant, je sais pas.
Ben, tu sais, l'idée que ça pourrait expliquer, disons, que Bernard Laroche c'est qu'il enlève l'enfant, mais c'est pas ce qui va lui arriver, tu sais.
C'est ça, par exemple, ouais.
Puis que quand il dit, à un moment donné, j'ai pas tué ton gosse, il n'y a pas tort d'enlever,
ça,
par contre. Mais peut-être, tu sais, je sais pas.
Mais en même temps, c'est que le problème avec le truc de Bernard Laroche, c'est que si on s'en réfère à ce qu'on sait de la version Muriel Boll, c'est que il serait allé la chercher au lycée, puis tout de suite, avec son fils, dont il s'occupait, là, les parents se partageaient la garde du fils en permanence, donc le jour, c'était la...
Ouais.
C'était un, le soir, c'était l'autre. En tout cas, le fils était toujours là. Il avait 4 ans aussi. Donc, va chercher avec son fils Muriel Boll. Monte jusque chez les Villemains. Ramasse le fils et s'en va. Ça veut dire qu'il aurait su que le petit garçon était dehors. Vois-tu, c'est ça qui me bogue, moi. C'est que...
Ouais.
Qu'est-ce qu'il faisait là, dehors, le petit garçon? Ça faisait une couple de jours qu'il était malade. C'était la première journée que là... Tu sais, sa mère trouvait que, comme c'était correct qu'il joue dehors, il allait mieux. Bon, elle l'a laissé là un petit peu. Il avait juste 4 ans, là. Ça doit pas être... Tu sais, on peut... Elle revient du travail, rentre, lui dit « OK, tu peux jouer pendant que... » Tu sais, bon, elle fait son repassage pendant qu'il joue, puis que le timing est parfait
entre
la sortie du lycée puis l'idée que le petit garçon va être dehors puis que tu vas le trouver là quand tu vas venir le ramasser.
Puis qu'il y a une lettre qui peut être postée quelques minutes plus tard.
Ouais.
En réclamant, en expliquant qu'il s'est vengé.
Ouais.
Comment cette lettre-là peut être postée si vite?
Ouais.
Il y Il y a des affaires qui restent...
Sauf que si tu dis, ben peut-être... Ben moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que si tu dis ils sont plusieurs corbeaux ou ils sont plusieurs dans le coup, disons. Mm-hmm. Il y a l'amitié, hein, parce que là, dernièrement, en fait, en 2017, un mononcle puis une matante, là, ont été mis en examen grâce à un système informatique qui traite toute l'information. Puis, tu sais, comment ils l'appellent, là, le... En tout cas, un système informatique policier là, qui permet d'analyser une masse énorme de données, puis qui a sorti...
Classe tous les alibis, classe tous les documents. Ouais.
Puis il a sorti deux suspects, c'est un mononcle puis une matante.
Oui, c'est Jacqueline, Jacob et son mari, que j'ai oublié le nom.
Marcel. Marcel Jacob, Jacqueline Jacob, qui sont du côté de la mère des Jacob, c'est du côté de Monique.
Oui, qui ont élevé Bernard Laroche, je crois.
Puis ils sont proches, puis ils vivent proches.
Oui, mais très proches physiquement. Là, ils peuvent voir ce qui se passe chez les Villemain. Là.
Les Jacob, plus que Bernard Laroche. Bernard Laroche reste un petit peu plus loin. Ouais. Il peut pas voir si bien.
Ouais.
Mais Marcel et...
Jacqueline, je crois.
Jacqueline, Jacob peut voir qu'il y a le petit Grégory, puis appeler quoi, Bernard au téléphone? C'est ça que j'ai de la difficulté à avoir, que Bernard soit parti et soit arrivé juste dans le bon temps pour ramasser l'enfant, puis tout de suite partir, puis le déposer. Je vois mal...
Oui, bien écoute, c'est là-dessus que les gens se cassent la tête. Autant tantôt, on disait « Ah, il aurait dû faire une analyse de contenu. » Il faut forcer d'admettre que par rapport à la mécanique de tout ce qui est arrivé, puis les heures, tout ça, tu sais... Ils ont fait des reconstitutions de toutes les façons. C'est dur. Il y a personne qui est arrivé à dire, ben voici, c'est ça qui est arrivé. T'avais un complice qui était caché là, t'avais une personne qui était là, selon toute vraisemblance. Mm-hmm. Ça reste. Mm-hmm. Qui a posté la lettre à 17h avant?
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que l'idée, l'idée, c'est que ça pourrait être quelqu'un d'autre. Ça devrait être quelqu'un d'autre que la roche. Et donc, par conséquent, il y a plusieurs corbeaux.
C'est ça.
Parce qu'on ne veut pas lâcher la roche. On veut pas lâcher Bernard Laroche parce que Muriel, elle a dit que...
Oui, ben là où Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction, dit « je persiste et je signe, ce n'est pas Laroche. »
Il le dit dans sa lettre d'adieu.
Oui.
Bernard Laroche est innocent.
Puis c'est pas Anacrime, là, ou le truc d'intelligence artificielle qui va... Mais bon, en même temps, il dit ça, mais il laisse entendre que c'est la mère.
Mais c'est parce que le pauvre monsieur, il a fait des erreurs tellement grossières que là, il est pris avec sur la conscience la mort d'un homme.
Je pense que s'il y a une chose qu'on pourrait reprocher à Jean-Michel Lambert, puis avec le caveat que si on n'a pas tout écouté puis tout lu, là, peut-être que quelqu'un pourrait nous dire que non, c'est pas vrai, il l'a dit, mais de ce que je comprends pour l'instant, c'est que ça me semble pas, je pense qu'on en a parlé autrefois, être quelqu'un qui a été capable de dire à un moment donné, écoutez, sur cet aspect spécifique-là, j'ai fait une erreur.
Oui.
J'ai mal agi.
Oui.
Je n'aurais pas dû faire ça. Vous pouvez dire que c'est l'inexpérience, vous pouvez dire que c'est la pression des médias. Il y a plein de choses qui m'ont été reprochées. J'ai écrit un livre, un de ces livres s'appelle « De quoi d'autre on peut me blâmer » ou « De quel autre reproche on peut me faire » ou je sais pas quoi. Tu sais, c'est quelqu'un qui subissait beaucoup ça, mais en même temps, à un moment donné, il n'a pas été capable de dire « Écoutez, ce n'était pas telle raison, c'est telle raison. » À un moment donné, les gens font des erreurs. Il en a fait, il aurait pu le dire, mais il s'est comme toujours resté empêtré de que c'était pas des erreurs, ce qui rend ça tragique.
Oui, mais c'est qu'en même temps, c'est que ce qu'il laisse, on dirait, là, si tu veux mon humble avis, c'est que ce qu'il laisse empêtré dans le fait que c'était pas des erreurs, c'est la même cause qui lui a fait faire ces erreurs-là. C'est-à-dire que sa difficulté à lui... C'est face au regard d'autrui. C'est-à-dire, le gendarme... Tu sais, on peut imaginer, à 33 ans, t'arrives, t'es jeune juge d'instruction, t'es pas très expérimenté, t'as des idéaux pour toi-même. Mais là, puis il est très seul aussi, c'est ce qu'on a remarqué. Il est très seul dans son cas, puis il est pas soutenu par sa propre hiérarchie.
Tout à fait. Puis il y a d'autres cas en même temps, hein, on oublie, mais il gère plein d'autres choses.
Entre autres... paquet de crank calls puis de trolls téléphoniques.
Puis là, les journalistes débarquent, les avocats.
C'est ça, les journalistes débarquent, les avocats, dont certains sont très en vue, dont certains arrivent de la métropole parisienne. tu sais, là, t'as la gendarmerie, t'as toute cette pression-là, et t'as la pression du regard public, puis t'as comme peut-être un petit péché mignon qui est que, tu sais, t'aimes ça, là, tout d'un coup, alors que ça t'est peut-être jamais arrivé, puis que t'en as toujours un peu rêvé, être pris en photo, l'air de rien, par le gars de Paris Match. Ouais. Tu sais, il y en a des coups de téléphone enregistrés, ouais, là, ouais. Jean-Cœur,
où il dit « Je vais te prendre en photo en sortant du marché au naturel. » Puis l'autre qui dit « Ouais, bon, ben je vais être à telle place à telle heure. » Et...
C'est ça.
« Tu me verras faire mes emplettes. »
Oui, c'est ça.
Mais moi, il y a ça dans ce personnage-là qui m'interpelle, mais il y a aussi tout le côté que... Tu sais, c'est peut-être pas tant qui veut être dans la photo que aussi qui veut être dans la fiction. Je veux dire, tu sais, c'est quelqu'un qui veut écrire des bouquins. Il en écrit beaucoup de livres, là.
Oui, mais aussi écrire des bouquins pour être... Et être reconnu pour les bouquins qu'il écrit.
Oui.
C'est tout le truc d'apostrophe, de Marguerite Duras,
ouais,
de tu sais. Puis, en fait, c'est le voyons, tu sais, je disais, c'est l'envers de ça, c'est je peux pas... C'est-à-dire l'envers de ce petit côté narcissique, disons, de ce petit côté... être vu, être regardé, espérer être connu.
Mm-hmm.
L'envers, c'est ne surtout pas vouloir se sentir humilié, tu sais.
Ouais, ouais.
Puis, c'est, en fait, dans la vraie vie ordinaire, c'est souvent ce qui empêche de simplement s'excuser puis de reconnaître ses torts face à quelqu'un à qui on a fait du tort. C'est l'orgueil, c'est...
Ça, ouais, tout... Mais puis un n'empêche
fois,
pas,
ça dépasse... Tu sais, c'est comme tu peux payer cher pour soutenir ton amour propre.
Oh, tout à
fait.
Puis
Dieu
sait
que
de l'amour propre dans cette affaire-là, il y en a eu beaucoup. Là.
Oui.
ça dégouline d'amour propre. Mais pareil, je voulais juste... Puis je suis d'accord avec toi, puis il y a cet aspect-là tout à fait, mais je pense qu'il peut aussi avoir la position, entre guillemets, là, du névrosé qui se trouve plongé dans une histoire... excitante en termes de stimulus, tu sais, en termes de... Là, c'est plus un crank call, là, c'est quelque chose de gros.
Oui.
Et que un des mouvements pour gérer ce traumatisme-là, traumatisme au sens de trop de stimulation, c'est de mettre le pied dans l'excitation puis de le retirer tout de suite pour aller passer 3 semaines à écrire là-dessus et à fantasmer les affaires. C'est mon plaidoyer.
Oui, c'est vrai, ça se peut.
Changement d'à propos. Tu sais, moi, j'ai souvent l'espèce de... Je sais pas comment le qualifier. D'espoir de comprendre un cas ou quelque chose en me rabattant ou en élaborant les concepts lacaniens de réel, imaginaire et symbolique.
Mm-hmm.
Qui, soit dit en passant, dont Lacan s'est servi pour comprendre une partie de l'œuvre de Marguerite Duras. Alors, il y a un tie-in à l'affaire.
Ah, il a fait ça, lui!
Il a fait ça, lui!
Ah, ben!
Mais bon, ces concepts-là qui sont très forts, qui sont très utiles, ils ont par contre le désavantage d'être incompréhensibles. Pour la majajorité du monde, dont ceux qui les expliquent, c'est-à-dire...
Oui,
c'est très difficile. Tu sais, moi, j'ai passé beaucoup de temps à dire, là, regarde, j'ai le temps, voici quelqu'un qui m'explique c'est quoi la différence. Parfait, je prends des notes, j'écoute. Puis souvent, ça finit par être compliqué, puis ça réfère à un autre texte, puis c'est pas si, puis c'est ça, mais c'est plus... Puis il faut lire un autre. Puis donc, ce n'est pas des concepts qui sont faciles à manier, mais même jusqu'à un point, à un moment donné, ça devient absurde parce que c'est là, je veux dire, pouvez-vous donner un exemple de ce que c'est? T'sais?
Ben, en fait, oui, c'est quoi le sujet précisément? Oui. Ben, en fait, juste l'anecdote que je rapporte souvent, c'est le fameux graphe du désir.
Mm-hmm.
C'est le graphe du désir, mais là, comme troisième mouture, là, c'est-à-dire avec 70 000 flèches supplémentaires, puis que je suis en train de... Je suis vraiment investie à comprendre comment ça fonctionne, jusqu'à ce que tout à coup ça m'apparaisse. De quoi ça parle, en fait?
C'est ça. J'ai perdu le sujet.
Pourquoi?
Dans l'élaboration.
C'est quoi le sujet? Oui, c'est ça. C'est un schéma, mais c'est le schéma de quoi?
Mais par contre, il faut admettre que les Américains maintenant, certains Américains, pas les Américains, mais certainement pas, mais il y a des Lacaniens aux États-Unis qui étudient Lacan et qui ont la caractéristique d'être Américains, c'est-à-dire de vouloir simplifier les choses et de rendre les choses en catchphrase. Fait que quand t'écoutes eux expliquer les concepts d'imaginaire réel et symbolique, ça devient très limpide, c'est très clair, puis c'est des gens, des professeurs d'université, très sympathiques, intelligents, mais qui ont l'idée de dire, si je ne suis pas capable d'utiliser ces concepts-là pour expliquer comment ça s'accroche et ça s'articule à un épisode de Seinfeld, par exemple, c'est que je ne suis pas capable, c'est que je ne maîtrise pas.
Oui. Mm-hmm.
Ce qui a le double effet de dire, ah, mais c'est le fun, tu sais, je peux finalement comprendre, mais dans le même mouvement, des fois, de dire, ouais, mais... Non, il simplifie trop ces Américains-là. Le concept est plus compliqué que ça. Là. Si ça devient trop simple, je perds la jouissance de continuer à essayer de comprendre.
Ça. Mon père avait tendance à dire la chose suivante, c'est que il n'y avait pas plus... malgré qu'ils aient décapité leur roi, il n'y avait pas plus monarchique que des Français. Il y a ça, c'est-à-dire quand tu dans cet esprit-là, entre autres. C'est-à-dire, t'as un auteur qui écrit des choses.
Ouais.
Si c'est un auteur qui est reconnu, tu lui dois révérence autant qu'au roi, en fait.
Ouais.
Donc, la complexité de son écriture et le fait, par exemple, qu'un Lacan va dire « Mais j'écris pas pour qu'on me comprenne. »
Ouais.
C'est tu dois révérence à ça et tu supposes spontanément une profondeur à laquelle toi, pauvre mortel, ne peux avoir accès qu'au terme d'immenses
efforts qui sont toujours projetés plus loin et loin. Mais donc, check bien comment eux expliquent ces concepts-là, parce que quand même, c'est très simple. Ils vont dire l'imaginaire... C'est du domaine de la perception, c'est ce que tu vois. Ils vont dire, là. C'est des auteurs, on pourrait les mettre en excerpt, là. Mais tu sais, c'est des auteurs très sympathiques. L'imaginaire, c'est ce que tu vois. C'est le champ de la perception. Puis c'est en même temps ce que tu vois, puis l'illusion de ce que tu vois, parce que l'humain est porté à boucher les trous puis à voir des choses plus complètes que ce qu'ils sont.
Mm-hmm.
Pour le dire vite. Le symbolique, c'est l'endroit d'où tu vois ce que tu vois. Que tu oublies, parce que quand tu vois quelque chose, tu ne dis pas nécessairement « je suis un homme âgé au 21e siècle » à tel endroit. Tu vois ce que tu vois, puis tu enregistres les informations comme ça. De la même façon que quand tu joues aux échecs, un moment donné, tu prends pour acquis les règles que tu connais des échecs, puis tu ne te remets pas en question constamment en disant « Mais qui a été l'inventeur? Pourquoi la dame bouge comme ça? Moi, je m'objecte. » Tu oublies ça. Tu es dans la partie et tu joues.
C'est ça. C'est le cadre
ouais.
Admis partout.
Cadre symbolique admis partout, si on veut. Puis, qui pourrait être modifié. À la limite, quelqu'un pourrait dire « On ne joue plus aux échecs de la même façon. » Mais en même temps, des fois, une fois que quelque chose est canné, il n'y a pas de raison de dire nécessairement on change comment les pions bougent aux échecs.
Mais si tu dis on joue plus aux échecs de la même façon, ben la nouvelle façon, c'est le symbolique pareil.
Mm-hmm.
C'est une nouvelle façon.
Tout à fait.
C'est pas aléatoire.
Exact.
Tu peux pas faire ton coup aléatoirement.
Oui.
T'obéis à des règles.
C'est ça. Mais souvent, une fois qu'ils sont intégrés, on oublie. Puis on les accepte comme ils sont. Puis... Fait que ça serait le symbole. Puis je résume, puis c'est grossier, puis je comprends que...
C'est beaucoup plus compliqué que ça.
Beaucoup plus, effectivement. I'm dumbing it down. Mais quand même. Puis, mais entre autres, ce qu'il dit sur Seinfeld, puis je vais revenir, là, c'est un long aparté, si tu permets, puis je vais revenir à notre sujet. Hein, mais ce qu'ils vont dire de Seinfeld, par exemple, d'une comédie comme Seinfeld au niveau du symbolique, c'est de dire qu'il y a une structure à cette comédie. Nommément, par exemple, le fait que Jerry Seinfeld, qui est un comédien qui joue son propre rôle, en fait, dans la comédie, est toujours assez stable.
Mm-hmm.
Quand même. Il est assez even Steven.
Oui.
Puis c'est les gens autour de lui qui fluctuent.
Oui.
Mais lui, il reste stable. Puis ça fait partie de la structure de l'affaire. Fait que s'il avait décidé à un moment donné, dans l'évolution de la comédie, qu'il devenait un chef cuisinier dans un restaurant toujours débordé, Mais ça aurait été vraiment un changement de structure. Ça aurait été une autre émission, quasiment. Mm-hmm. Tu dis, c'est pas ça, l'émission. L'émission, mm-hmm. c'est que lui, il regarde toutes les choses froidement, puis il se fout de tout le monde, puis que les gens autour de lui ont différentes névroses qui expriment de différentes façons, mais que lui, il regarde toujours un peu. Mm-hmm. C'est la structure de l'affaire.
Mm-hmm.
Mais on l'oublie, puis ça fait partie du symbolique du show. Mm-hmm. Bref, c'est le symbolique. Et le réel, ça serait quelque chose qui vient faire rupture, justement, avec cet ordre symbolique-là, et qui peut changer... soit les règles ou les lois ou la position avec laquelle la personne voit les choses, qui vient changer les coordonnées avec laquelle tu vois les choses. Fait que t'es assis au restaurant, tu jases avec quelqu'un, tu racontes ton travail, ce que t'as fait, ce que t'as pas fait, une conversation, t'es content d'être inscrit dans la société de différentes façons, tout d'un coup, il y a des coups de feu.
Mm-hmm.
Ça perce les vis, l'alarme part, tout le monde. D'un coup, toute la structure symbolique et l'imaginaire aussi, tout ça s'écroule en fait.
Mm-hmm.
Puis il peut avoir potentiellement un avant et un après cette éruption du réel là.
Mm-hmm.
Bon, encore là, c'est plus complexe, mais.
Mm-hmm.
Mais donc, moi, je pensais un peu à ça. Puis c'est sûr qu'on pourrait, dire qu'est-ce qu'il y a de l'ordre de l'imaginaire là-dedans ou de l'ego, puis il y en a beaucoup quand on disait tantôt.
Parce que l'ego, tu mets ça dans l'imaginaire.
Potentiellement, mais je veux pas aller là.
Oui, mais tu viens de le faire.
Oui. Oui, on pourrait dire que certains personnages dans l'histoire qui veulent bien paraître, qui veulent être beaux, qui veulent être bons, qui veulent être reconnus, qui veulent être vus, on pourrait mettre ça dans l'imaginaire. Admettons. Mais c'était pas tant pour moi d'essayer de faire un plaquage de qu'est-ce qui est symbolique, c'est quoi les lois, là, tout ça, mais c'est pour dire qu'il y a une affaire d'éruption du réel pour moi. Il y a quelque chose que... J'étais curieux de t'entendre qu'il y a quelque chose dans l'affaire pour moi qui est en fait intolérable. Plus à la limite... je peux pas dire plus, là, mais il y a peut-être... Il y a deux choses intolérables. C'est sûr qu'il y a... Quand on voit les images du petit garçon qui est récupéré,
mm-hmm.
c'est tragique, c'est mm-hmm. grave, puis ça ramène au réel de l'affaire, mm-hmm. tu sais, qui a été oublié parfois, un journaliste, un tel, des mots,
oui.
du
oui.
blabla.
Oui.
Mais là, ah, tu vois cet enfant-là, c'est ça, là... C'est
oui.
ça la vraie histoire, c'est pas,
oui, oui.
c'est pas toute la romance autour. T'sais. Mais il y a un autre truc aussi qui est pour moi quelque chose de l'ordre du réel, qui est intolérable à écouter en fait. Moi je trouve que j'ai vraiment de la difficulté, mais pourtant qu'on continue à faire jouer, puis je pense qu'on devrait pas à la limite, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du privé, c'est lors des funérailles,
absolument, oui,
le cri de douleur de la mère.
Tout à fait, oui.
Je sais pas... Il y a un moment, dans le dernier podcast, puis on pourra le mettre, mais je me suis dit, ah, écoute, ce podcast-là, c'est fait sur le livre de Denis Robert. J'ai trouvé ça sur Radio France, ou je ne sais plus quoi. Là. Mais c'est un podcast très bien, puis un documentaire très bien sur toute l'histoire, très, très posé, mm-hmm. vraiment très bien fait. Puis je trouve que le journaliste, c'est ça, Denis Robert, hein?
Libération, c'est le journaliste de Libération. Ouais. Juste
un des plus sympathiques
oui.
de toute cette histoire. Fait que c'est certainement pas rien contre ce qu'ils ont fait, mais il y a ce moment-là aux funérailles où la mère ne dit rien, puis le père dit rien, puis il y a un silence. Puis à un moment donné, il y a un cri de douleur qu'on entend de la part de la mère. Et ils mettent cet extrait-là dans le documentaire deux fois, je crois. Puis c'est intolérable d'écouter ça parce que ça dure longtemps. Puis c'est un vrai cri de douleur, là, pur.
Ça, c'est dans le documentaire, celui dont tu parles.
Ouais.
Oui.
Mais je pense aussi qu'on l'entend dans celui de Netflix.
Dans celui de Netflix, tu as ce moment-là filmé, c'est-à-dire qui est montré à l'inspecteur Sesma.
Ouais.
À la journaliste, là, Florence, la femme de... les super productifs, là, voyons, comme un... Le nom m'échappe, là, mais en tout cas, à une des journalistes qui est interviewée, là, la journaliste de François, là, qui produisait avec son mari...
Avec son mari Bézina, je crois.
Bézina, c'est ça. Qui est présentée... À qui?
Mais Jean Kerr aussi, je crois.
À Jean Kerr.
Peut-être, hein?
Et c'est Denis Robert, de Libération. Et donc, tu les vois réagir à ce qu'ils entendent.
Ah, c'est ça, hein? Tu vois, moi, j'ai écouté...
Je trouve ça très fort comme moment.
Mais est-ce qu'on devrait...
Voyez de quoi vous parliez. Voyez, il y a comme... Oui.
Mais est-ce qu'on devrait...
Oui.
C'est un peu une atteinte à la vie privée. T'sais, je peux penser qu'il y a quelque chose qu'on devrait plus... dont on devrait plus servir même pour make a case. Ou... C'est ce cri de douleur-là.
Oui.
C'est intolérable à entendre, mais intolérable dans le sens que tu veux être respectueux puis dire ben c'est de l'ordre du privé puis on n'a pas à...
Oui.
Mais bref, nonobstant ça, mais moi, il y a le malaise parce que... Mais tu vois, ça m'a pas frappé tant quand j'ai écouté le documentaire sur Netflix. Puis tu vois, tu me le rappelles, là.
Peut-être qu'on le voit pas sur Netflix. En tout cas, faudrait que je le revoie.
Mais peut-être
là,
que
mais
oui.
Peut-être qu'on les voit le voyant.
Ouais.
On les voit l'entendant. Je sais pas.
Peut-être.
Cas, ouais.
Mais il y a aussi que j'étais moins familier avec le cas, fait que j'étais moins émotionnellement pris par tout ça. Mais dans le podcast, ça m'a peut-être fait plus réagir aussi parce que je l'écoutais en marchant. Puis à un moment donné, si tu fais des commissions, t'achètes des choses, t'écoutes ça, puis à un moment donné, il y a ce cri de douleur-là qui émerge, puis tu dis, ça n'a pas de sens, tu sais. Puis ça, après ça, ils le remettent encore, puis ça regarde. Mais où je voulais en venir aussi, c'est que, tu sais, on peut penser qu'un cri comme ça de douleur, c'est quelque chose, tu sais, dont on pourrait dire que c'est quelque chose de réel qui émerge, qui vient faire rupture, que là, c'est plus du blabla, c'est plus théorique.
Ça perce la réalité, ça la traverse, ça déchire le
voile. Oui, mais sauf que c'est ce que la théorie dit, mais sauf que finalement, non, parce que ça s'est vite refermé.
Oui.
Je veux dire, ça n'a pas eu cet effet-là. On peut penser que les gens ont été saisis sur le coup, mais tu n'as pas l'impression, quand tu lis ce qui s'est passé, que les gens sont restés en disant « non, là... » Ça nous a ramené à l'ordre, ce cri-là, cette douleur-là.
T'sais, c'est t'sais? Comme la peau, hein? C'est juste, je peux faire l'analogie, tu sais, c'est... Tu sais, la peau, c'est un organe dans tu sais. Donc, c'est un organe qui gère, qui contribue à ta gestion de tes rapports à l'extérieur de ton enveloppe corporelle. Mm-hmm. Tu sais, c'est ce qui... La limite entre le dedans et le dehors, puis qui te protège de trop de stimuli, qui, tu sais. Puis, à l'occasion, ta peau se déchire. Tu te coupes avec un couteau ou, tu sais, bon, quand
tu...
Ouais, ben quand ta peau se déchire, ben là, c'est comme ce qui est dedans, ça sort au dehors. C'est que tu saignes. C'est pas long, par exemple, ça prend vraiment pas de temps, là, à moins d'être comme d'un truc majeur, là, c'est pas long que tu te mets à fabriquer des anticorps pour te protéger de ce que l'ouverture pourrait laisser entrer et à fabriquer une nouvelle peau pour colmater la brèche. C'est pas long. Puis je pense que l'appareil psychique a quelque chose de c'est-à-dire, là, t'entends un cri... Bon, ce que t'as, le petit garçon qui est mort puis qui sort de la Vologne et dont on a une photo, puis ce qui est frappant de cette photo-là, c'est qu'il a juste l'air d'un petit garçon et qu'on sait qu'il est mort. Mmh. C'est ça, le truc, c'est que... Bon, puis on se demande est-ce qu'on aurait dû montrer la photo ou pas. C'est qu'il y avait comme trop de proches... Tu sais, ces petites chaussures, tout. C'est un petit garçon qu'on voit, mais on sait qu'il est mort. Puis on voit autour les visages des gens qui savent qu'il est mort. Ça, la question, c'est est-ce qu'on aurait dû publier cette photo-là? Puis c'est comme peut-être paradoxal, j'en parle, puis je la décris, parce que je l'ai vue. Mais c'est ce qui est choquant, puis qui a fait accourir Paris.
Oui.
En campagne, c'est la photo qui a fait accourir. Oui. Pourquoi ils voulaient tous voir?
Oui, c'est la photo.
C'est parce que c'est le réel.
Oui.
Mais on fait quoi? C'est comme quoi? Des anticorps?
Oui.
C'est comme des journalistes qui arrivent comme des anticorps. On va colmater la brèche en mettant des mots, en mettant des mots, puis des mots, puis des mots. Puis Dieu sait qu'il y en a eu des mots. Mais c'est des mots qui c'est comme cicatriciel.
Oui, oui.
Tu sais, c'est pas des mots qui remettent la peau comme elle était, hein? C'est des mots... Puis la même chose avec... d'abord, on n'aurait pas dû la voir, la détresse brute de la mère, parce qu'il n'y aurait pas dû y avoir des photographes puis des caméramans sur des tombes, dans un cimetière, pendant l'enterrement.
Exact.
Ça n'aurait jamais dû arriver. On ne devrait pas avoir ça.
Non. Puis si on l'a, on ne devrait pas.
Mais là, on l'a, on ne devrait pas
ouais.
le diffuser, mais nous, on l'a vu.
Ouais.
Puis c'est comme le truc aussi qui est particulier à Internet, c'est que tu as un événement, mais ça se réverbère à c'est comme à l'infini, c'est que t'as une image qui est reprise, qui devient un milliard d'images parce qu'elle est dans tel documentaire, puis elle est dans tel autre truc, puis dans tel autre truc, puis dans tel blog, puis dans tel machin, puis, tu sais?
Ouais.
Ça fait qu'en 1984, t'avais pas ça, mais t'avais ça, mais par les journalistes. Là, aujourd'hui, tu peux ne pas l'avoir par pudeur, tu peux décider de ne pas l'avoir.
Oui, oui. Oui, oui, non, tout à fait.
Mais elle va continuer d'être montrée.
Oui, puis on oublie ça, hein. Je sais pas si c'est ça que tu dis, mais ça me fait penser. Tu sais, il y a des gens qui, quand on vivait en 1980, on pouvait avoir l'idée que ce qu'on disait ou ce qu'on faisait était complètement éphémère. Que quand c'était fini, c'était fini.
Oui.
Je veux dire, tu passais à la télévision, tu disais ton truc, oui. Et après ça, c'était fini. La show était finie.
Oui.
Et des fois, il y a des gens qui ont fait leur vie en pensant que c'était éphémère, qui maintenant, dans l'après-coup, 30 ans plus tard, voient que tout ce qu'ils ont dit et fait est disponible en ordre chronologique. Puis il y a comme une espèce de choc de dire « OK, mais moi, je pensais que c'était terminé. »
Oui, oui.
Donc, il y a ça aussi, dans l'invention d'Internet, ça l'a ramené d'une façon parfois très...
Mais il y a aussi l'idée que, tu sais, tu disais, c'est du réel. Le cri brut de la mère, que Marguerite Duras a sûrement vu aussi, là. Je veux dire, qui doit faire partie de ce qui... Tu sais, ce qui touche n'importe qui dans le fond de ses os, tellement c'est...
Mais je peux penser qu'elle l'a pas vu en passant. Pareil, ouais. En lien avec ce qu'on dit, qu'elle, quand elle arrive un an plus tard, il y a des trucs comme ça qui ont été enregistrés, mais elle sait pas où, puis elle y a pas accès. Maintenant, quand tu regardes dans les archives, tu trouves tous ces bouts d'entrevues-là, puis tout ce qu'ils ont filmé dans...
Puis c'était pas dans un journal télévisé, genre Antenne 2.
Ah, ouais, peut-être. Nanana,
bienvenue, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir.
Ouais, peut-être. Oui, ouais, peut-être.
Tu sais, parce que c'est comme ça. On en a parlé, on en parle encore. Grégory, tout le monde sait c'est qui. Bon.
Ouais.
Pas tout le monde sait c'est qui. Tout le monde connaît le nom. Tout le monde sait c'est quelle photo. Tout le monde. Ouais. Tu sais, c'est un feuilleton français. Mais. Là où je voulais en venir, c'est que ce hurlement-là qui vient du fond des entrailles, tu dis, ben moi, je le place au plan du réel parce que ça vient du fond des entrailles puis que ça perce l'écran. En même temps, on a une iconographie collective chez les catholiques, dont les Français, tu sais...
Mm-hmm.
qui a ça au cœur, c'est-à-dire qu'il peut rapidement recouvrir ça d'un imaginaire. C'est la mère qui a perdu son fils en croix.
Mm.
La douleur de... Tu sais, il y a des... Cette iconographie-là, Marie souffrant devant le... Donc, on a rapidement... Un récit autour de ça. Ouais, c'est-à-dire des anticorps.
Oui, oui. Et donc, des mots, là, on pourrait dire, il n'y a pas de mots. On ne peut pas mettre de mots là-dessus.
C'est ça. C'est qu'on a tout de suite des représentations, disons. Imaginaire, avant de le cadrer, tu sais, c'est juste en dessous de la surface, on a tous, je dis tous, tu sais, ça se passe en France dans un cimetière catholique
ouais.
à côté d'une église qui représente ça, tu sais, la passion du Christ puis la souffrance, puis Marie... la mère du Christ qui est une femme souffrante de la mort de son enfant, tu sais.
Mm.
C'est accessible rapidement.
Oui, oui, non, tout à fait, t'as raison.
Ce qui fait qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose juste à côté, la Florence Bézina, tu la vois voyant dans le documentaire, c'est comme le... Tu la vois voyant la mère hurler,
mm-hmm.
elle, la journaliste, qui croit que c'est la mère qui a tué son enfant, Et tu vois le cynisme de « mon Dieu, ça, c'est une femme qui se la joue.
Mm-hmm. » Non, mais en fait, c'est ça, tu parlais de la fonction paradoxale de ces mots-là, parce qu'on peut dire parfois, ben, tous les rituels culturels, politiques, les mots qui viennent, le blabla du discours, blabla, du discours courant, tout ça. En même temps, c'est du blabla qui passe à côté parfois, on peut dire, la douleur de ce qui est arrivé, de ce qui a émergé, dont il faudrait rester plus proche, plus longtemps pour prendre acte.
Oui.
En même temps, ça a aussi la fonction de passer outre. Et donc, c'est pas si facile à dire qu'est-ce qui est la bonne façon de réagir à un trauma. T'sais, qu'est-ce qui est assez de temps pour dire, bon, on prend acte de ce qui a émergé.
Oui.
Nos coordonnées ont été bouleversées. On ne fait pas une fuite vers l'avant, vers du blabla idiot. En même temps, on ne peut pas rester proche de la douleur tout le temps et de la fétichiser non plus.
Non, oui, tout à fait. Tout à fait.
Je veux dire, la vie fait...
La vie continue.
Oui, puis la vie va arrêter à un moment donné si on a tout un laps de temps où on est dans la vie. Fait, si on passe 80 ans à être dans la douleur, à un moment donné...
Oui.
Mais ce n'est pas simple de déterminer qu'est-ce qui est le bon moment... dans la douleur, de quoi il faut prendre acte, quand est-ce qu'on peut passer par-dessus.
Puis qu'est-ce qui a vocation à devenir une douleur collective qui s'inscrit dans un récit collectif? Puis qu'est-ce qui a vocation à demeurer une douleur privée qu'on doit respecter et laisser à la personne privée aussi? L'idée, c'est aussi qu'il y a un récit qui s'articule, puis que c'est peut-être là que ça a déraillé dans l'affaire du petit Grégory. Ça a déraillé parce que le récit lui-même ne permettait pas d'endiguer ou de faire de cet événement-là un événement collectif au sens de ce qui permet de métaboliser collectivement quelque chose ou de nous redire un récit collectif compte tenu de l'intrusion de chaque journaliste dans la vie des uns et des autres et du potinage qui, tu sais.
Sauf quand même, oui, vas-y.
Ce que t'as, par contre, souvent quand il y a, tu sais, par exemple, des tueries de masse ou que t'as des événements... Tu sais, récemment, au Québec, on parle de féminicide quand une femme meurt dans un contexte de violence conjugale.
Mm-hmm.
Et puis là, bon, ben, y a un récit qui se met en place, c'est-à-dire que ça devient un événement public. Telle femme, tel jour, est morte aux mains de son conjoint. C'est qui son conjoint? Éventuellement, on va entendre parler de son procès. Mais avant, on va parler de féminicide. On va parler de comment ce féminicide-là s'inscrit dans une liste de féminicides. C'est le combientième.
Ouais, ouais.
Tu sais, il y a un récit qui tient lieu. C'est comme... C'est une sorte de liturgie, dans le fond. On répète la même histoire un peu de la même façon pour métaboliser collectivement quelque chose qui fait que le drame individuel de cette femme-là a vocation à devenir... un drame collectif.
Mm-hmm. Par contre, je sais que c'est pas ça que tu dis, mais ça m'évoque quand même comment, dans le cas de Villemain, pour le dire comme ça, force est d'admettre que pour l'assassin, il semble avoir eu quelque chose de l'ordre de la libération, d'un sacrifice qui est fait,
qui vient clore
quelque chose.
Oui.
Je veux dire, ça n'a pas fait ça pour l'ensemble des gens, là, mais... pour celui qui a posé cet acte-là, ce passage à l'acte-là, tu sais, dans la lettre qui écrit par la suite, c'est « ma vengeance est faite ».
C'est terminé.
Le sacrifice est fait. À ce que je comprends, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas continué à harceler du monde, il n'y a pas... ça a été terminé.
Oui.
Il y a eu une espèce de...
Mais en même temps, ça a été terminé pour lui, mais en même temps, la presse a pris le relais.
Oui, oui.
C'est comme il n'y avait plus besoin non plus. C'est-à-dire, est-ce que c'est un soulagement... ce sacrifice-là pour lui, dont on connaît pas l'identité toujours, est-ce que c'est un soulagement ou est-ce qu'il y a une prolongation de sa jouissance à lui dans les actes de plusieurs journalistes qui prennent le relais du harcèlement des parents jusqu'à emprisonner la maman, alors qu'elle est enceinte de 6 mois.
Ouais, ouais.
Tu sais, rendre le père fou, de le confronter à une situation intolérable jusqu'à ce qu'il assassine le suspect qui vit avec ça sur sa conscience aujourd'hui, sans jamais... Il n'y a toujours pas de réponse à ce qui est arrivé à son enfant. Tu sais, si t'es quelqu'un qui veut se venger puis qui a vraiment la haine de tu sais, qui veut faire du mal à quelqu'un, je veux dire... tu dois être satisfait de voir les choses se déployer. T'as plus besoin de... plus besoin de fournir d'efforts. Ça se fait tout seul.
Mais quand même, tu sais, je réagissais au fait qu'il n'a pas écrit... J'ai hâte de voir les déploiements de ta douleur dans les prochaines semaines. Tu sais, c'était quand même un truc difficile. Ma vengeance est faite, le sacrifice est fait. J'espère que tu vas mourir de chagrin.
Oui.
Il y avait une certaine finitude dans l'affaire.
Oui.
Donc, l'idée que tu soulèves, est-ce que le corbeau est un psychopathe, puis il faut être un psychopathe pour faire tous ces les trucs qu'il a fait d'envoyer des corbillards, tout ça, tu sais. Je me suis demandé pareil si c'est pas possible aussi que ça soit quelqu'un d'assez malhabile, qui était pas particulièrement astucieux, mais que comme le dégoulement de l'affaire a fait en sorte que tout s'est bien passé pour lui.
C'est un accident.
Ouais. En fait,
accidentellement, personne s'est rendu compte c'était qui.
Ben, parce qu'on peut supposer, c'est une façon de voir la chose, que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui prévoit les coups... qui est un psychopathe, qui est un une fine compréhension des gens, puis qui essaie de déjouer toutes les pièges, ou c'est quelqu'un qui a fait 3-4 trucs, tu sais, en se protégeant pas tant que ça, en imitant des voix, puis à un moment donné, le bruit s'est créé malgré lui.
Mais ça, en fait, c'est la question de c'est quoi un psychopathe? Tu sais, est-ce que... Tu sais, il y a un truc... c'est un... Je pense qu'il est psychiatre, là. En tout cas, le gars qui fait Duty to Warn. C'est un Twitter handle, tu sais, c'est un compte Twitter qui s'est donné pour mission de avertir la population américaine des dangers que représente Donald Trump en tant que personne atteinte de problèmes graves de personnalité, en fait, pas de santé mentale comme telle, mais de... C'est comme... Il le diagnostique comme un narcissiste malin. Bon. Donc, lui, dans sa définition, il y a l'idée que nécessairement un psychopathe, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et là, il s'en réfère à des Ted Bundy, etc., etc., ce qui ne fait pas partie de la liste d'items diagnostiques de la psychopathie. T'es pas obligé d'être intelligent pour être un psychopathe, tu sais. Puis pourquoi l'idée de la psychopathie du corbeau, par exemple, est intéressante, c'est comme juste comme mot à l'intérieur duquel on peut rentrer un certain nombre de choses, ça touche, à mon sens, beaucoup plus... l'énergie, l'obsession, le stalking, c'est-à-dire il y a avant que tout s'arrête parce que là tout d'un coup sa vengeance est réalisée puis effectivement le père du petit garçon est extraordinairement malheureux et le monde s'abat sur lui et tu sais comme c'est atrocement souffrant ce qu'il doit endurer. C'est ça, sa vengeance est accomplie, mais avant tout ça, l'énergie, là, comme des 700 appels à Monique Villemain, la mère de Jean-Marie, puis les lettres, puis toute la planification qui a dû avoir lieu pour qu'il réussisse son coup et qu'il assassine un enfant de 4 ans.
Ouais.
Ce que ça indique, c'est que cette personne-là est vraiment investi dans l'idée de faire du mal à d'autres personnes sans limite.
Mais donc, obsédé, sans scrupule, déterminé à faire du mal, mais pas nécessairement...
Envieux.
Mais pas nécessairement supérieurement...
Ça peut être les deux. Il peut être comme moyennement intelligent ou peu importe, ou avoir moyennement planifié ses affaires, puis avoir été heureux, tu sais, ouais. au plan de la chance.
Mais l'intelligence...
Et être psychopathe pareil.
Oui, c'est ça. En fait, où je veux en venir, c'est que oui, c'est ça, t'as raison. Mais son efficace réside peut-être justement dans la capacité d'être implacable, obsédé, envieux.
D'avoir aucun remords.
Et d'avoir, c'est ça. Plus que dans l'intelligence, de la planification.
C'est ça.
Mais c'est de ça. Rester centré sur son plan.
Ouais. C'est vrai que quand on raconte le truc, puis qu'on montre un corbeau à chaque fois, puis que, tu sais, on romantise ouais. le tu sais, style Jack l'Éventreur, là, tu sais, on romantise un personnage méchant. Tu sais, comme il y a de la réalité qui se perd dans le ouais. mythe.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais en conclusion, il y a l'idée que tu soulevais tantôt sur la si le corbeau est un psychopathe. Ouais.